ici Jean-François Bourgeot, responsable de l'émission À Contre-temps. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Michel Biron, Elisabeth Nardou-Lafarge et François Dumont dans le cadre de l'histoire de la littérature québécoise qui a été publiée au début de l'automne 2007. Et nous allons rencontrer, en fait, À Contre-temps, tout à fait selon l'optique de l'émission, qui est née à partir d'une légende juive, en fait, selon laquelle il y avait toujours un individu qui arrivait en retard à chacun de ses rendez-vous, avec 5 minutes de retard. Et puis, à partir d'un certain moment, on lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu arrives toujours en retard comme ça? » Et il a répondu « Mais je ne suis pas en retard, je suis simplement à temps dans un autre temps, selon une autre sommation. » Et l'émission qu'on a imaginée s'inscrit tout à fait dans la postérité de cette légende-là, dans le sens que nous sommes maintenant quelques mois plus tard après l'apparition de l'histoire de la littérature québécoise, donc il n'y a pas de vertu promotionnelle à l'entrevue qu'on va voir aujourd'hui, qui s'inscrit dans une façon à contre-temps, donc quelques mois plus tard, qui va nous permettre peut-être d'essayer de profiter du délai, du décalage, pour que les auteurs eux-mêmes puissent peut-être reconsidérer ce qu'ils ont fait à partir des mois qui sont écoulés et qui font suite au tapage, enfin au semi-tapage médiatique qui a suivi l'apparition, parce qu'elle était très couverte quand même dans les médias, et qui va nous permettre peut-être, nous, de remettre en jeu certains concepts qui apparaissent dans l'histoire littéraire et qui, pour l'essentiel, concernent les questions de fond. On a vraiment affaire ici à une somme qui est considérable, ça a été répété sur tous les fronts, et c'est vrai, et qui, comme toutes les sommes, pose des questions. Donc, on va donc essayer de problématiser ici aujourd'hui l'histoire de la littérature québécoise avec le concours des trois auteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc, je salue Michel Biron, Elisabeth Nardou et François Dumont.
Merci.
Oui,
bonjour.
Et je vais peut-être en fait commencer simplement par dire qu'il y a peut-être dans toute forme d'histoire de la littérature québécoise une réminiscence lointaine de la Divine Comédie, dans le sens que les auteurs sont eux-mêmes dans une position de Saint-Pierre, il faut imaginer des promotions à l'intérieur d'un paradis, il faut imaginer aussi des enfers, c'est-à-dire une précipitation dans l'oubli pour certains auteurs qui passent entre les mailles du filet, et peut-être aussi des purgatoires, c'est-à-dire des œuvres qui sont en montée, qui sont en train de monter à la cote ou à la bourse, mais qui ne sont pas forcément non plus rendues au statut des auteurs canoniques, c'est-à-dire ceux qui ont droit à leur chapitre individuel dans le cas de l'histoire de la littérature québécoise. Et comme dans le cas de la Divine Comédie, pour filer la métaphore jusqu'au bout, Virgile doit lui-même demander à Dante d'entreprendre son voyage. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Vous avez été sommé par Boréal, finalement, de commencer une histoire de la littérature québécoise, puisque c'était, si je ne me trompe, une commande. Donc, ce n'était pas un projet qui est né, finalement.
Mais on n'a quand même pas été sommé.
Vous avez été invité, disons.
Invité, oui. Oui, voilà.
Et peut-être dès le départ, je vous demanderais peut-être, bon, très rapidement, ne serait-ce que pour mettre les auditeurs dans l'intimité de ce qui s'est produit durant ces 8 ou 9 années, si je ne me trompe, qui ont présidé l'élaboration du projet. Si vous pouviez peut-être me raconter rapidement comment ça s'est fait dès le départ et comment l'aventure elle-même a eu lieu et comment ça s'est terminé peut-être.
Oui, ben je peux raconter brièvement. C'est pas compliqué. C'est François Ricard de Boréal, il y a 8 ans ou un peu plus, qui m'a approché, me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de travailler une histoire de la littérature québécoise, de faire le tour du jardin, donc de faire vraiment un ouvrage qui serait une sorte d'ouvrage de référence ?» Et là, j'ai dit « Oui, mais avec des collègues, là, pas tout seul, parce qu'on ne s'embarque pas là-dedans tout seul. » Et donc, j'ai contacté François, Elisabeth, qui ont accepté tout de suite, et on s'est lancé là-dedans assez rapidement. Et je dirais qu'il y avait une sorte de naïveté au début, ou d'élan, d'enthousiasme. On avait même, je me souviens, fait une demande de subvention en disant que ça allait se finir en 3 ans. Et on a commencé en se disant, on sait bien que ça va être plus long, mais il ne faut pas y penser trop. Alors, on a travaillé de façon régulière quand même pendant ces 8 années-là. On s'est rencontrés plusieurs fois par semestre. Et bon, ça a été ce projet de longue envergure, mais en même temps, ça ne nous a jamais paru une corvée ou quoi que ce soit. C'est plutôt une sorte d'occasion qui ne se présente pas si souvent dans nos métiers, c'est-à-dire de faire un ouvrage qui s'adresse à la fois à des collègues, à des spécialistes, à des étudiants en littérature et à un public plus large qui s'intéresse à la littérature, à la culture québécoise, et c'est une occasion. Donc, on voulait aussi en profiter et pas aller trop vite. Alors, donc après 8 ans, on a dit, là, il faut finir, et on a fini. Voilà.
Ouais, j'ajouterais peut-être quand même qu'on ne se connaissait pas. Pas vraiment. Enfin, on se lisait les uns les autres, mais qu'on ne se connaissait pas. Et que dans la naïveté dont parle Michel, il y avait celle-là aussi, de saisir ensemble cette occasion-là. Et qu'il y a eu là un effet de génération, de position par rapport à la littérature québécoise. On est, je crois, un peu dans le même temps, tous les trois, par rapport à cette littérature, formée par une génération qui, elle, n'avait pas été formée à la littérature québécoise. Il y était venu après. Ceux qui nous ont formés étaient souvent des professeurs de littérature française qui avaient gagné leur légitimité à la littérature française et qui étaient venus à la littérature québécoise dans le courant de leur carrière, souvent pour des raisons, des enjeux identitaires, personnels, mais aussi politiques. Et nous héritons de ça et nous transmettons d'une autre manière. Et je pense qu'il y a eu, au-delà des personnes, une rencontre là qui concerne le projet dans une certaine mesure. C'est qu'on était dans la même, au même moment par rapport à cette littérature-là.
Oui. Au début, c'est sûr, on a trouvé que c'était une belle occasion professionnellement de faire une synthèse de cet ordre-là. C'est pas le genre de travail qu'on peut faire souvent dans notre domaine. Mais moi, j'ai le souvenir aussi qu'on s'est senti très rapidement concerné personnellement. C'est-à-dire que c'était vraiment un enjeu pour nous de savoir quel sens ça pouvait avoir, la littérature québécoise, comment on pouvait la configurer, quel texte était vraiment important, pour quelles raisons. Et c'est devenu très rapidement ça. Donc, en même temps qu'on est devenu amis, puisqu'on ne l'était pas avant, on se connaissait pour s'être lu, mais on ne se connaissait pas personnellement. Alors, les deux se sont faits ensemble, de sorte que ça a été... une interrogation, je dirais, personnelle aussi, pas seulement un tour du jardin professionnel.
Peut-être sur le plan de la confection elle-même, la plupart des commentateurs qui ont lu en fait votre ouvrage ont remarqué qu'il y avait une refonte des trois signatures à l'intérieur d'une voix qui était très difficilement assignable. Et le passe-temps, c'est un compliment par ailleurs. Vous avez vraiment réussi à écrire à six mains, c'est-à-dire à trouver une voix qui n'appartient à aucun d'entre vous et... Il y a tout le monde en même temps, donc. Mais bon, dans les faits, si vous venez vous prononcer sur la chose, est-ce que l'effet de, en fait, d'amalgame tient l'objet lui-même de l'histoire de la littérature québécoise qui a été créée a posteriori, ou si vous avez vraiment élaboré des méthodes d'écriture pour essayer justement de gommer des. Parce que vous avez tous des voix d'essayistes qui étaient déjà présentes, qui étaient déjà affirmées, de chercheurs auparavant. Donc comment ça s'est fait finalement écrire à six mains comme ça?
Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, nos écritures sont compatibles, première chose. Et d'autre part, on avait une méthode, effectivement, qui consistait à se faire lire par les deux autres et réécrire même. On soumettait les textes et les autres pouvaient intervenir. Alors, on ne signait pas nos chapitres et les chapitres se transformaient et à un moment donné, on perdait même le fil, c'est-à-dire qu'on n'était plus sûr si c'était nous ou un autre qui l'avait écrit. Alors là, il y a un travail... d'uniformisation, mais ce n'est pas vraiment un travail d'uniformisation, c'est plutôt une sorte de méthode de lecture et de réécriture.
Oui. Mais on l'a beaucoup fait aussi avant même d'écrire. On a beaucoup discuté de chacune des parties, de chacune des sections, avant de se mettre à écrire, de sorte qu'il y avait déjà un point de départ commun, disons. Ouais. Et en plus, au fur et à mesure qu'on se relisait, ben, on entendait cette voix commune qu'on pouvait adopter plus facilement dès le premier jet, même s'il allait être travaillé ensuite.
Et je pourrais peut-être ajouter une chose, c'est qu'il y a, je pense, là-dedans un parti pris anti-spécialiste. Il s'agissait aussi de sortir des spécialités et de faire un ouvrage plus généraliste. Et de ce point de vue-là, il y a une volonté, c'est un parti pris, je pense. On ne voulait pas faire uniquement des chapitres dans notre domaine de spécialisation. On n'aurait pas pu, d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'on en sorte. Et ça aussi, ça compte.
Oui.
Bon, vous dites que vous voulez faire une histoire finalement qui était capable de rejoindre finalement deux domaines qui sont souvent séparés, que ce soit celui de spécialisation universitaire avec quelque chose au-delà qui serait une marge de gens cultivés, mais qui ne serait pas forcément non plus au fait des dernières tendances en termes de spécialisation. Ça se traduit notamment par un ton qui se fait particulier à votre histoire littéraire et qui réussit très bien à faire la part à la fois des gens qui... Bon, malgré quelques insatisfactions qui sont inévitables par rapport à des synthèses que vous faites et qui tiennent notamment, bon, il faut dire aussi à la nature de votre volume et à sa taille surtout. Est-ce que vous avez réussi à faire la synthèse en 600-700 pages, peut-être pour des raisons éditoriales, je ne sais pas, d'un volume où, pour l'essentiel, malgré que les origines soient toujours difficiles à signer, vous partez depuis les débuts jusqu'à Et là, c'est un peu le problème peut-être qui se pose à tout historien de littérature généraliste comme vous l'êtes, mais jusqu'à, je pense, ça arrête à 2005-2006, le calendrier que vous avez élaboré à la fin. Est-ce que le problème de l'historien, c'est pas justement comme dans le paradoxe d'Achille et de la tortue, toujours courir derrière une actualité qui lui échappe constamment, dans le sens qu'il faut toujours se poser la question de savoir où est-ce qu'on arrête. Parce que bon, il me semble, dans ce cas-ci, vous avez choisi d'arrêter en 2005, mais il est très clair qu'il y a un effet d'entonnoir qui... ou d'évasement qui est très très facile à lire dans votre histoire, plus on rentre dans la contemporanéité, plus il y a de noms propres. Bon, pour des raisons diverses, mais comment est-ce que vous avez vécu cette gestion-là différente des périodes, par exemple?
Oui. Ben, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a un effet d'évasement, si on veut, mais en même temps, on a tenu à limiter le nombre d'écrivains mentionnés, pour pas que ce soit un inventaire, et pour qu'il y ait une sélection. C'était ça aussi l'idée, c'est qu'il y ait une sélection, qu'il y ait un choix, qu'il y ait un jugement, donc qu'on aille à l'essentiel. C'est certain que là, par rapport à la période la plus récente, on en reparlera sans doute, mais c'est beaucoup plus difficile de juger, de faire des tris, et pas seulement parce que c'est la période la plus récente, parce que cette période-là, justement, soulève la question de la hiérarchie des textes. Il y a un écrasement de la hiérarchie, une démocratisation de la littérature, qui pose un défi à l'historien de la littérature, puisqu'il n'y a pas de grande œuvre, il n'y a pas de grand courant, il y a une série de textes qui s'imposent puis disparaissent, et selon une espèce d'égalitarisme qui est spécifique à cette période-là. Donc on l'a vécu un peu comme ça. Mais bon, peut-être qu'Elisabeth...
Mais il n'y a pas non plus d'autorité critique, contrairement aux autres périodes, qui s'est imposée. C'est-à-dire que cette espèce d'écrasement, de coexistence, d'esthétique très très différente, et d'absence de jugement de valeur fort, elle est déjà dans la période, elle aussi, elle est déjà dans le traitement critique. Il n'y a pas que nous, tous les commentateurs qui parlent de la littérature contemporaine québécoise tiennent à peu près ce discours. Donc, je crois qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il ne me semble pas me souvenir qu'on a tellement voulu s'arrêter à une année en particulier. Mais on avait identifié des éléments sur lesquels on pourra revenir, qui nous paraissaient caractériser la période. Et on s'est arrêté là, quand il nous a semblé qu'on avait fait le tour de cette période plus difficile, effectivement, plus difficile à définir, que là, on s'arrêtait. Que sur une année, me semble-t-il.
Oui, mais on s'est dit très précisément qu'on serait plus réservé pour la période contemporaine, c'est certain. Mais je dirais peut-être aussi qu'on l'a abordé, par ailleurs, de la même façon que les périodes précédentes, au sens où on a essayé d'identifier ce qui était, de notre point de vue, vraiment significatif. Vous parliez de l'enfer de Dante au début, mais on n'a pas pensé en termes d'oubli, de purgatoire, je dirais d'élimination, mais davantage, il me semble, pour l'ensemble de l'histoire de la littérature québécoise, qu'est-ce qui, de notre point de vue, émergeait vraiment ou se manifestait, pouvait être significatif, etc., moins que par soustraction, disons. Et ça s'applique aussi à la période contemporaine.
J'ajouterais peut-être juste une chose par rapport au tout début de votre question précédente qui touche peut-être à la méthode. C'est que le lecteur a toujours été très présent pendant qu'on écrivait, pendant qu'on travaillait. Dès l'élaboration des périodes, on a discuté beaucoup sur chaque période et notre question, c'était un peu si nous devions présenter cette période, raconter cette période à quelqu'un qui l'ignore, comment est-ce que nous nous y prendrions? Quelle serait la manière de mettre en place qui donnerait le plus de choses possibles? Et que je crois qu'on s'adressait. D'abord, quand on faisait nos premiers jets, on s'adressait aux deux autres. Et au-delà de ça, je crois qu'on avait, même s'il n'était pas très précis, même si il comprenait plusieurs lecteurs réels, on avait dans la tête un interlocuteur. On voulait dire quelque chose à quelqu'un.
D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une écriture commune, je pense.
Je crois, moi, oui.
Et même les étudiants, c'est-à-dire qu'on mettait à l'épreuve ce qu'on écrivait, notre plan, on le mettait à l'épreuve avec nos étudiants dans les cours, et on voyait si ça marchait ou si ça marchait pas. C'est instantané presque. Hein. Quand il y a des sourcils qui froncent, ils disent « oui, qu'est-ce qui est spécifique à telle période? » Et là, on voit que c'est pas clair, on se dit « non, il y a quelque chose qui marche pas dans notre plan. » Et on revenait à notre plan et on le changeait.
Oui. Ou à l'inverse, des choses pour lesquelles on se disait peut-être que ça serait un peu trop compliqué. Par exemple, des sections qui sont divisées en trois parties ou en deux parties pour essayer de relativiser la frontière entre telle et telle période. Des fois, ça passait vraiment bien. Mm-hmm. Et donc, les étudiants voyaient bien qu'il y a des nuances qui pouvaient être faites de cette façon-là. Donc, mm-hmm. ça a été très utile. Mm-hmm. On l'a fait plusieurs fois, d'ailleurs, c'est vrai.
Mm-hmm. Vous avez utilisé tout à l'heure, François Dumont, le terme d'émergence, en fait. Et il est très clair qu'à lire attentivement l'histoire de la littérature québécoise, il y a une séquence qu'on peut suivre comme ça d'émergence, en sens que des sans précédents qui se produisent. Par exemple, à la page 113, François-Xavier Garneau, premier écrivain véritable du Québec. On parle de la suite, page 151. Pour la première fois, les écrivains canadiens français forment une sorte de petite bohème vouée au culte de la poésie. Et si on voulait les mettre comme ça en série, on aurait pu repérer comme ça un système d'émergence, une série en tout cas, qui se produit jusqu'à 1980. Parce que là, d'un seul coup, effectivement, ça semble s'arrêter. Le commencement perpétuel que vous ramenez à Garneau, on ne sait pas s'il disparaît, mais il entre, en tout moins, il est troublé un peu. Là. Il rentre en crise. Et je ne sais pas exactement si ça veut dire qu'effectivement, il y a une sorte d'épuisement des émergences qui se produit à ce moment-là, ou si nous sommes tellement en train de baigner dans la période que l'effet d'immédiateté nous rend très difficile de la lire. Mais en quoi ça tient cette manière-là, justement, de terminer la série à cette époque-là, en fait?
Oui. Ben, c'est très intéressant, c'est de repérer les mots premiers ou premières, parce que c'est juste. Et pour nous, c'est important parce que c'est là que le sens historique se manifeste. Pour comprendre la continuité historique, il faut qu'il y ait des ruptures. Rupture, le mot est un peu fort, mais des premières fois, des changements marqués. Donc, il faut qu'on indique au lecteur, ici, c'est la première fois que tel événement se produit, que telle écriture émerge. Et c'est vrai qu'on a fait ça pas mal tout au long de notre rédaction. Quant à la période plus récente à laquelle on revient, 1980, il y a tout de même les best-sellers. Pour la première fois, des best-sellers sont produits en quantité et s'imposent, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et c'est donc un changement important, structurel. Là, il y a une littérature de grande production qui colore pas mal tout le paysage littéraire. Donc, il y a encore un commencement perpétuel qui se produit là. Et on commence autrement. C'est-à-dire, on se libère aussi d'un certain sens historique qui caractérisait la période antérieure, qui était associé à la question nationale, surtout, pour arriver à d'autres fonctions, beaucoup moins claires, sans doute, beaucoup moins unifiantes, unificatrices. Mais justement, c'est dans le largage relatif de la question nationale, ou la relativisation, si on veut, qu'il y a une première.
Mmh. Oui, mais peut-être aussi du point de vue du statut de la littérature elle-même. Parce que c'est vrai que, pour une part, il y a quelque chose de nouveau aussi au début, un commencement jusqu'à un certain point, mais il y a aussi une fin. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a appelé le décentrement de la littérature, c'est tout de même un mouvement qui va en sens inverse de ce qu'on a vu dans la plupart des parties précédentes, sauf peut-être en Nouvelle-France, évidemment.
Ouais. Mais... Oui, ben ça c'est très vrai. C'est une période où on assiste à toutes sortes de fins, de commémorations, de remémorations. Et on sent bien qu'il y a une certaine nostalgie aussi. Elle est là. Elle est très difficile à qualifier, c'est-à-dire qu'elle est à la fois négative et positive. Elle est négative parce qu'on a l'impression qu'il y a une perte. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas seulement de l'ordre de la perte. Et on a essayé de le décrire, et même le décentrement, l'idée qu'il n'y ait pas un centre, qu'il y ait plusieurs centres, qu'il y ait plusieurs pôles, c'est pas forcément négatif. On veut pas non plus tomber dans une sorte de jovialisme ou d'enthousiasme, mais la période contemporaine, on peut pas simplement dire que c'est la fin de la littérature. D'une certaine littérature, oui. Et là, il faudrait qu'on... Là, ça serait une question à prolonger, on en parlait au début. Les questions qu'on doit développer, qui sont appelées par la dernière partie, c'en est une grosse. Cette idée que la littérature... se redéfinit, mais qu'elle perd quelque chose à ce moment-là. Elle perd pas seulement son prestige, mais elle perd une partie de son sens.
Pour cette période-là aussi, je crois que la littérature québécoise est beaucoup plus près des autres littératures, en tout cas occidentales, qu'il est beaucoup plus difficile à partir de ces années-là d'identifier des spécificités, et que c'est une conséquence de ce que tu viens de décrire. Les fins que connaît la littérature québécoise, ce qui sans doute recommence ou commence différemment et que peut-être on ne peut pas encore préciser, est beaucoup moins propre au Québec et à la littérature québécoise que un peu générale quant à la littérature. Alors, ça tient, on avait aussi à intégrer cette, cette perte de spécificité qui correspond par ailleurs à une sorte de normalisation, pour employer un terme que Ricard avait employé autrefois, de la littérature. Ce qui se passe ici se passe aussi ailleurs, nous semblait-il.
Oui, et le fait que ce soit... positif ou négatif, ce décentrement, que ce soit à la fois positif et négatif, disons, c'est, je trouve que ça fait partie de la période. Je me souviens qu'à la fin de l'écologie du réel, Pierre Neveu posait précisément cette question-là, quand il se disait, on est face à la possibilité de, il appelait ça, si je me souviens bien, un pluralisme fort ou un pluralisme mou, en tout cas. Et donc, il me semble que ça accompagne toute la période de savoir... ce qu'on peut faire de cette multiplicité de centres, disons, jusqu'à quel point ça peut être un recommencement, ça peut être une nouvelle façon de faire la littérature, ou au contraire, le deuil simplement de ce qu'elle a été.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que dans un travail comme celui-ci, ce qui se passe aujourd'hui, ça se rattache à ce qui s'est passé avant. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est de faire le lien entre la précarité actuelle et certaines précarités déjà lisibles auparavant. Oui. Et là, il y a une continuité. Il y a un commencement, oui, mais il y a une continuité, il y a des renvois, il y a une tradition. C'est-à-dire que le commencement perpétuel, c'est une tradition.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de précarité? Parce que, bon, est-ce que c'est une précarité réelle ou un sentiment de précarité? Oui. Vous dites aussi, par ailleurs, que cette précarité-là s'accompagne, votre père, avec une force institutionnelle sans précédent, pourtant. Donc, comment se fait-il que cette d'appareillage-là, qui n'a jamais peut-être été aussi bien constitué, s'accompagne d'une obsession, effectivement, de la fin qu'on peut décliner sur plusieurs plans. Et si on veut spéculer un peu, vous avez accepté de vous prêter un peu au jeu, parce que vous avez là fait un immense capital en termes économiques dans cette histoire-là. Et si on cherchait à voir, vous avez parlé, Elisabeth Nardou, de sentiment d'une sorte d'international, finalement, de normalisation qui est loin d'être spécifique au Québec, effectivement. Et je me demande si ça ne pourrait pas rapporter ça, par exemple, au fait qu'on passe à ce moment-ci d'une indépendance à l'autre, une obsession de l'indépendance à l'autre, dans le sens que l'indépendance, dans les années 60, pouvait être liée à un sens politique, ce fait que l'écrivain avait une partie liée avec la politique, même contrariée, mais une partie liée malgré tout, alors que là, on est passé d'une indépendance, non pas fondée, mais d'une indépendance à protéger. Et donc, ça revient toujours sur le même régime, savoir qu'il faut réaffirmer que l'œuvre d'art n'est pas une marchandise, et donc, par la fin même, si vous dites que la seule émergence vraiment valable dans les années 80, c'est le best-seller qui apparaît, il faut distinguer la littérature réelle de quelque chose comme la littérature, pas forcément fausse, mais en tout cas la littérature compromise avec une économie très forte, comme le best-seller. Et si, en fond, ce à quoi on assiste, c'est pas justement un déplacement de l'indépendance, c'est-à-dire non pas une indépendance à fonder, mais une indépendance à protéger. C'est-à-dire, il faut réaffirmer que la littérature, c'est ça. Et on se retrouve toujours devant le même paradoxe, à savoir est-ce que véritablement la littérature, c'est quelque chose qui échappe à l'économie, ou si c'est pas, on n'est pas en présence de deux économies contradictoires, simplement. L'économie du best-seller, une économie de la littérature dite réelle, mais qui est constamment à se justifier, à se défendre par rapport à un extérieur qui est là pour l'absorber, en tout cas qui la menace malgré tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas.
Mais quitte à utiliser le vocabulaire du champ littéraire et la question de l'autonomie, il me semble que c'est un peu comme si l'autonomie avait effectivement fonctionné. Si l'autonomie, c'est la constitution en champ social vraiment spécifique, qui ne sont plus dépendants des autres champs sociaux de la littérature. Alors oui, ça s'est fait de façon assez, assez spectaculaire au Québec, parce que c'est un processus récent qu'on peut repérer, dont on ressent encore le caractère récent, et ça a pour conséquence d'isoler ce champ-là du reste. Et je dirais qu'il y a en même temps gain d'autonomie et perte de légitimité. Quant à la question économique, il me semble qu'elle, si elle est évidente pour les best-sellers, la précarité économique de la littérature, de toute littérature, est en jeu aussi. Une des précarités de la littérature, au Québec comme partout ailleurs, c'est sa précarité économique. Alors que l'économie est la valeur, une des valeurs les plus légitimées, sinon la plus légitimée actuellement. Alors, c'est un paradoxe qui est sans doute pas propre au Québec, mais qu'on a vu, nous...
Bonjour. Ici Jean-François Bourgeot, responsable de l'émission À Contre-temps. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Michel Biron, Elisabeth Nardou-Lafarge et François Dumont dans le cadre de l'histoire de la littérature québécoise qui a été publiée au début de l'automne 2007. Et nous allons rencontrer, en fait, À Contre-temps, tout à fait selon l'optique de l'émission, qui est née à partir d'une légende juive, en fait, selon laquelle il y avait toujours un individu qui arrivait en retard à chacun de ses rendez-vous, avec 5 minutes de retard. Et puis, à partir d'un certain moment, on lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu arrives toujours en retard comme ça? » Et il a répondu « Mais je ne suis pas en retard, je suis simplement à temps dans un autre temps, selon une autre sommation. » Et l'émission qu'on a imaginée s'inscrit tout à fait dans la postérité de cette légende-là, dans le sens que nous sommes maintenant quelques mois plus tard après l'apparition de l'histoire de la littérature québécoise, donc il n'y a pas de vertu promotionnelle à l'entrevue qu'on va voir aujourd'hui, qui s'inscrit d'une façon à contre-temps, donc quelques mois plus tard, qui va nous permettre peut-être d'essayer de profiter du délai, du décalage, pour que les auteurs eux-mêmes puissent peut-être reconsidérer ce qu'ils ont fait à partir des mois qui sont écoulés et qui font suite au tapage... enfin, au semi-tapage médiatique qui a suivi l'apparition, parce qu'elle était très couverte quand même dans les médias, et qui va nous permettre peut-être, nous, de remettre en jeu certains concepts qui apparaissent dans l'histoire littéraire et qui, pour l'essentiel, concernent les questions de fond. On a vraiment affaire ici à une somme qui est considérable, ça a été répété sur tous les fronts, et c'est vrai, et qui, comme toutes les sommes, pose des questions. Donc, on va donc essayer de problématiser ici aujourd'hui l'histoire de la littérature québécoise, avec le concours des 3 auteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu, dont je salue Michel Biron, Elisabeth Nardou et François Dumont.
Merci.
Oui,
bonjour.
Et je vais peut-être en fait commencer simplement par dire qu'il y a peut-être dans toute forme d'histoire de la littérature québécoise une réminiscence lointaine de la Divine Comédie, dans le sens que les auteurs sont eux-mêmes dans une position de Saint-Pierre. Il faut imaginer des promotions à l'intérieur d'un paradis. Il faut imaginer aussi des enfers, c'est-à-dire une précipitation dans l'oubli pour certains auteurs qui... passent entre les mailles du filet, et peut-être aussi des purgatoires, c'est-à-dire des œuvres qui sont en montée, qui sont en train de monter à la cote ou à la bourse, mais qui ne sont pas forcément non plus rendues au statut des auteurs canoniques, c'est-à-dire ceux qui ont droit à leur chapitre individuel dans le cadre de l'histoire de la littérature québécoise.